Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie. C'est avec un immense plaisir et une vraie fierté que je reçois aujourd'hui un invité hors du commun, un personnage unique en son genre, à la fois passionné, combatif et profondément attaché à l'âme de la France. Il est le collectionneur le plus célèbre de notre pays, l'homme qui a dédié sa vie à l'empereur Napoléon avec une ferveur rare. Expert reconnu, il a fait vivre des millions de téléspectateurs, évidemment, dans Affaires conclues, et il continue, malgré les tempêtes, à porter haut les couleurs de notre histoire et de notre patrimoine. Après avoir traversé des épreuves qui auraient pu en abattre plus d'un, la perte du somptueux palais Vivienne, il va nous en reparler, les aléas de la vie, il a choisi non pas la résignation, mais la création et le combat. Il a transformé son indignation face au cambriolage des bijoux de la couronne au Louvre en un véritable tube. La chanson que, chers auditeurs, vous devez connaître, « Rendez les bijoux » sortie fin 2025, qui a fait parler d'elle bien au-delà des cercles habituels. Homme de culture, d'humour et de franc-parler, il se définit lui-même comme un survivant du monde d'avant, déterminé à défendre ce qui fait la grandeur de la France, son histoire, son patrimoine, sa fierté. Son énergie, sa passion intacte pour Napoléon et son regard sans filtre sur notre époque vont, j'en suis certain, passionner nos auditeurs. Pierre-Jean Chalençon, écoutez, bonjour.
Bonjour,
Jean-Étienne.
Jean-Étienne, voilà, je suis impressionné d'être dans ces bureaux, ces studios, vous allez voir, c'est d'une beauté. Si j'avais su, je serais venu plus tôt, Jean-Étienne.
Alors, c'est un immense plaisir, évidemment, de vous recevoir sur Radio Courtoisie. Vous êtes, pour beaucoup de nos auditeurs, le symbole d'une passion intacte pour l'histoire de France et un franc-parler rare aujourd'hui, il faut bien le dire, Comment vous sentez-vous en ce printemps 2026 après toutes les tempêtes traversées ?
Moi, écoutez, je me sens dans une forme olympique. Je me sens un petit peu comme Astérix qui est tombé dans le chaudron avec la potion magique. Et je suis très, très, très en forme. J'ai beaucoup de projets. J'ai l'impression que le ciel s'éclaircit, en tout cas. Et voilà, je suis un peu inquiet pour le pays, comme beaucoup de gens.
Bien sûr.
Mais je suis surtout inquiet du niveau de déconfiture totale de l'équipage politique français. Et c'est très étonnant parce qu'il y a deux jours, la semaine dernière, j'étais avec Elisabeth Borne, chez qui on s'est retrouvés dans le même restaurant qu'on aime. Et c'est ce qu'Elisabeth Borne me disait. Elle était terrifiée de la décadence de la classe politique. Et c'est ce que j'ai confirmé. Et c'est ça qui me fait peur, voilà.
Et votre amour pour Napoléon, cher Pierre-Jean, reste légendaire après avoir dû vous séparer d'une partie de vos trésors ces dernières années. Quel est aujourd'hui l'objet ou la relique qui vous touche le plus émotionnellement et pourquoi incarne-t-il encore, selon vous, l'âme et la grandeur de l'empereur ?
Vaste programme, comme aurait dit le général de Gaulle. Écoutez, moi, je suis un passionné. J'ai commencé ma collection, j'avais 7-8 ans. Je faisais les foires à la brocante, j'allais en salle des ventes. D'ailleurs, je prépare pour l'année prochaine un livre où je voudrais un peu raconter tout ce qui s'est arrivé toute ma vie. J'avais fait un livre il y a quelques années qui avait bien marché chez Harper & Collins, s'appelait « Moi, l'Empereur ». Mais c'était un livre un peu grand public et pas très fouillé. Là, je vais vraiment faire un pavé. Je suis un passionné d'histoire, j'aime la France, j'aime l'histoire de France. Napoléon est un détail de l'histoire de France, mais un détail important, mais un détail. J'ai aimé l'Ancien Régime, j'ai aimé Charlemagne, j'aime l'histoire contemporaine, enfin voilà. Mais moi, Napoléon, c'est un peu mon phare, c'est mon rock, n'est-ce pas ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai passé le cap. J'ai été un collectionneur, j'ai acheté. Encore ce matin, j'ai failli acheter des objets. Et je me suis raisonné en disant, arrête, t'as dit que t'arrêtais, donc arrête, n'achète plus rien. Et maintenant, je veux vendre, parce que ça ne m'intéresse plus. Voilà.
D'accord.
Mais ça m'empêche pas que ma collègue, que
la
j'ai,
passion
que,
reste là.
Non, mais ma passion reste là. Demain, je peux vous parler pendant 10 ans de Napoléon. Je pourrais, je pense, passionner des millions de téléspectateurs ou d'auditeurs.
Ça n'étonnera personne.
Ça n'étonnera personne. Mais au-delà de Napoléon, je suis un passionné de l'histoire et de l'histoire contemporaine. Et quand je vois la décadence de toutes les pseudo-élites, le niveau est pathétique. Quand je vois la commission d'enquête sur le service audiovisuel, avec Charles Alloncle, qui est absolument extraordinaire, et quand je vois ces élites gauchisant, wokiste, mais c'est des, mais des fois je penserais comme Pol Pot, quoi. Heureusement que je vais pas en arriver là, mais ces gens-là, mais c'est pathétique, c'est terrifiant. Et je suis effondré parce qu'en fait, c'est pas que le service public, c'est tout est comme ça.
Ouais.
Et c'est terrifiant. Et j'en veux à cette classe politique de droite et de gauche qui, depuis 50 ans, nous ont foutus dans le bordel. Et c'est eux qui se permettent de donner des leçons et des bons points ou des mauvais points. J'étais à l'hommage national de Lionel Jospin là, il y a 10 jours. J'étais invité par le président de la République et j'ai d'excellents rapports avec le président de la République. Et je voyais tous ces gens-là. Alors moi, je suis arrivé à pied, mais les deux tiers de ces gens-là sont arrivés en voiture, chauffeur. Ces gens-là n'ont jamais travaillé de leur vie, mais ils sont tous habillés comme des milords. Ces gens-là ces gens-là sont entre 8 et 20 000 euros par mois, mais n'ont jamais eu une entreprise. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un chiffre d'affaires, un bilan, un chiffre d'affaires, mais ils ne savent même pas faire, comment dirais-je, une feuille de paye. Et ces gens-là sont des nantis de la République. Et ces gens-là, c'est eux qui nous ont foutus dans le bordel. J'étais là, je voyais le cercueil de Lionel. Il y avait, comment dirais-je, la garde républicaine. Et j'étais là en me disant, mais c'est vous, bande de cons, excusez-moi de dire de ce terme, mais c'est vous, bande de salopards, qui nous avez foutus dans la merde. Et depuis des années maintenant, on nous bassine avec la peur du Rassemblement, du RN ou du FN ou même de l'extrême gauche. Mais l'extrême gauche n'a jamais été au pouvoir en France, que je sache, sauf éventuellement pendant la Révolution française avec Robespierre et Danton. Ça a mal fini, ils ont tous été guillotinés. C'est pour ça que je me fais pas de soucis. Demain, ils gagnent, ils se tueront tous entre eux. Mais c'est quand même dingue de mettre des épouvantails et que les Français aient pensé ça. Comme l'a dit mon ami Roland Duhab, moi c'est marrant parce que je suis un mec de droite, mais je suis ami avec tout le monde. J'ai été autant ami.
C'est ce que je constate.
D'ailleurs, si le président de la République me parle, c'est qu'il pense que j'ai quand même un cerveau et pas quelques neurones. Je pense que personne dans ce pays peut ignorer que Chalençon a largement le niveau d'être Premier ministre ou même peut-être un jour président de la République.
Vous y pensez en vous rasant peut-être.
J'y pense jamais, mais de plus en plus, quand je vois la nullité des pseudo-candidats qu'on nous présente pour l'année prochaine, mais c'est un panier de crabes, et surtout, c'est des corrompus, c'est des gens qui... Je vis beaucoup en Asie en ce moment, et je me dis, mais je suis devenu très polpotien, quoi. Il y a un moment, ça va, quoi. Ça suffit, quoi.
Et Pierre-Jean, en 2026, dans une France, justement, qui cherche son chemin, quel regard portez-vous sur l'héritage napoléonien? Est-ce un modèle de volonté, d'organisation et de rayonnement que nous aurions intérêt à redécouvrir face aux défis actuels?
C'est une bonne question, mais bien entendu. Vous savez, la France, nous vivons aujourd'hui en 2025-26 sur le code civil, le code de procédure, le code des impôts. C'est Napoléon qui a tout créé. On a été copié aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Chine. Aujourd'hui, les institutions ou les codes de procédure français sont maintenant universels. L'euro, dont on nous bassine depuis des années, Jean Monnet, Giscard et compagnie, eh bien, c'est Napoléon qui a créé le franc or, c'est le franc germinal, c'est le franc, la lyre italienne, enfin, toutes les monnaies pays étaient basées sur le franc. D'ailleurs, j'ai la lettre de Napoléon qui ordonne l'institution de la lyre italienne basée sur le franc.
Ouais.
Bon, ça, c'est dans un carton à côté de mon lit. Mais je suis un peu comme Toutankhamon, je dors, mais vivant avec mes trésors. Mais... c'est terrifiant. Et je pense qu'il faudrait justement redonner... La France n'a jamais été aussi grande qu'à l'époque de Napoléon, qu'à l'époque de Louis XIV. Et aujourd'hui, on essaie de détruire la France. Et ça, malheureusement, c'est à cause des dirigeants européens actuels qui sont des traîtres, qui se vendent pour BlackRock, pour toutes ces entreprises absolument faramineuses. On est un peu dans un film de James Bond. Mais le problème, c'est que les méchants sont partout. Et que les bons sont considérés comme des traîtres ou des félins, n'est-ce pas? Et ça, c'est terrifiant.
Juste un petit message, Pierre-Jean, pour les auditeurs de Radio Courtoisie.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, hein, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. Pierre-Jean Chalençon, vous avez été l'un des premiers à monter au créneau, hein, avec force hein, d'ailleurs, après le cambriolage des bijoux de la couronne au Louvre. Vous avez même transformé cette indignation en chanson « Rendez les bijoux ». Qu'est-ce qui vous a poussé à passer de la colère à cette création artistique ? Et pensez-vous que cet événement révèle un problème plus profond de protection de notre patrimoine national ?
Ah bah c'est complètement ça. Vous savez, moi je suis un collectionneur, je suis un amateur d'art, je suis un amoureux de la France. J'ai prêté durant des années dans tous les plus grands musées du monde, le château de Versailles, Fontainebleau, Compiègne, Malmaison. J'ai fait des expositions dans le monde entier qui ont fait des millions de visiteurs. J'ai eu presque 10 millions de visiteurs qui sont venus
énorme.
Me voir. Étonnamment, j'ai toujours pas la Légion d'honneur. Et vu les contrôles fiscaux qui m'ont mis, ça m'étonnerait que j'en ai un jour. Concernant les arts et les lettres, j'étais un des premiers, c'est Don Dieu de Vabre en 2007 qui m'avait donné les arts et lettres. Je ne suis toujours pas monté en grade. Bon, après, à côté de ça, quand je vois les fripouilles qui nous ont assassinés,
est-ce que ça vous embête tant que ça ?
Je m'en bats les couilles.
Très bien.
Je m'en bats les couilles et je leur fais caca dessus. Par contre, j'ai quand même dans ma collection le dessin original de Jacques-Louis David, qui vient des collections D'accord. Fabius. D'une bonne maison, du dessin original de Légion d'honneur. Non, mais c'est pour vous dire, ce monde est corrompu, ces gens s'auto-satisfassent, se donnent des médailles, des machins. Là, j'ai vu la semaine dernière Jean-Paul Rouvre, gauchiste, complètement taré, qui avait une vie dissolue, enfin, je vous dis pas.
Qui a reçu la
collade. J'étais jaloux, j'ai pas envoyé de message à Emmanuel, mais au président de la République, mais. Franchement, on n'est pas sérieux, là. Non, mais c'est pathétique. Ce monde est devenu complètement fou. On est chez dans une bande de dingues. Je pense qu'en
on
fait...
On est chez les fous, c'est ça ?
Je pense qu'on est chez les fous, que les clients de l'asile, enfin, les patients de l'asile ont pris le contrôle, quoi.
Ouais.
Et c'est pathétique, c'est terrifiant. Donc oui, je suis effrayé de voir de tout ce qui se passe.
Et si je peux me permettre, Pierre-Jean, vu que vous avez des contacts un peu avec tout le monde... Vous en faites part, Monsieur Macron, de ce délire où vous ne pouvez pas répondre ?
Oui, le président de la République fait ce qu'il veut, mais moi je lui dis ce que je pense, quand ça va bien.
Vous parliez de Rouve, vous voyez, par exemple.
Oui, mais je ne vais pas lui faire perdre du temps. De toute façon, c'est pas lui qui a décidé, on lui a donné des listes, et puis là, et voilà, c'est tout.
Non,
vous savez, le président de la République aujourd'hui, il fait autre chose, il s'occupe d'autre chose que des délégations. Heureusement.
Enfin, bien sûr.
Le président aujourd'hui, il voyage beaucoup, à mon avis, il voyage un peu trop à mon goût, mais il devrait s'occuper un peu plus de la France que de ses voyages. Mais bon, ça, c'est mon choix personnel. Après, moi, j'ai pas ces relations-là avec le président. Donc, voilà. Je suis un peu comme Madame de Fontenay qui parlait au président, il me parle, etc.
D'accord.
Voilà. Mais je veux dire. Un de ces jours, on va se croiser. Moi, je connais sa femme. Lui, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. On se parle, on s'envoie des messages. C'est plutôt sympa. Et voilà. Mais c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie pour ça. C'est quelqu'un il a une vraie ouverture d'esprit. Mais le problème, ce n'est pas Macron aujourd'hui. Le problème, c'est tous les gens derrière. Vous savez, le Bilderberg, Soros, enfin, c'est tout ça. Parce que tout le monde se fout de notre gueule. Mais en attendant, la dette de la France, aujourd'hui, appartient à BlackRock. Édouard Philippe, que j'ai rencontré encore il n'y a pas longtemps, parce que j'ai pas mal d'amis en commun, et voilà, ils font tous partie de la même école. Ils ont tous été élevés par les young leaders, etc., etc. Enfin, tout le monde le sait, sauf les Français, parce que, étonnamment, quand vous écoutez à la télévision, enfin, le journal de 20h sur TF1 ou France 2, on n'est pas dans le même monde. Hein, heureusement que depuis maintenant 10, 15, 20 ans, il y a X, il y a Twitter, il y a Internet,
et
des médias alternatifs qui font que la vérité n'est pas forcément là où on pense qu'elle est. On voit aujourd'hui CNews, on voit BFM, on voit LCI, il y a plein de chaînes qui existent. Et même sur ces chaînes-là, vous imaginez la différence de traitement de l'information. Heureusement que Vincent Bolloré a décidé de créer un certain nombre de choses, même si de temps à autre, je pense qu'il n'est pas vraiment sur la même planète non plus. Mais je veux dire, voilà, il y a des choses qui sont importantes. Mais on est dans un monde terrifiant. Et heureusement qu'il y a des gens comme moi, parce que moi au départ j'étais un animateur télé, enfin de France Télévisions, j'avais jamais parlé de politique, et que mon engagement entre guillemets pas en politique, mais en ouvrage de gueule, c'est parce que j'en ai eu marre qu'on nous prenne pour des cons. Mmh. À l'époque, il y avait les Fous du Roi, il y avait Thierry le Lion, il y avait Coluche, il y avait des proches. Ils disaient des choses mais horribles. Aujourd'hui, maintenant, vous diriez le dixième de sang, vous mettrez en prison. Ça vous montre que la liberté d'expression a fortement a quasiment assassiné dans ce pays. C'est terrifiant. J'ai fait une vidéo lundi d'un filet mignon aux morilles avec des truffes et j'ai dit bon ben moi j'aime le porc et ceux qui l'aiment pas je les emmerde. Oui. Et alors j'ai le droit de le dire. Et ben ça a été relayé par Sirène ou je sais pas quoi. On a fait 1 700 000 vues en 3 jours. Je vous dis pas les tonneaux d'insultes que je me suis pris. D'ailleurs j'ai chargé un avocat de porter plainte pour diffamation etc. Et donc je m'en occupe dans les jours à venir avec mes avocats. Donc tous les petites ordures qui m'ont traité de tafiote, de sale PD, de sac droitard, etc. Ils vont avoir des soucis, ils vont me payer mes vacances pour l'été prochain. Non, mais il y a un moment, ça va, quoi.
Vous définissez souvent comme un survivant du monde d'avant, hein, déterminé à sauver la France. Quel est, selon vous, le chemin le plus réaliste pour sortir du déclin que vous dénoncez depuis longtemps et retrouver cette grandeur à la française que Napoléon incarnait si bien?
Bah vous savez, c'est très facile. Regardez ce qu'a fait Donald Trump en l'espace de quelques jours. Il est arrivé au pouvoir. J'étais là. D'ailleurs, j'y étais, puisqu'il m'a fait inviter à Washington. Il n'était pas président depuis 15 minutes, qu'il a commencé à signer des décrets. Bah, le prochain président de la République, si le président de la République n'est pas de la même couleur politique que l'Assemblée nationale, et ça se pourrait l'année prochaine, pourrait très bien avoir un président centriste et une Assemblée nationale RN majoritaire. Alors là, dans le cul Lulu pendant 5 ans. Mais c'est une phrase que j'aime bien, parce que c'est une phrase de Jean-Marie Le Pen, et on l'utilise beaucoup avec Jean-Marie.
J'ai reconnu.
Et que je pense d'ailleurs, j'embrasse Jean-Marie, parce que je sais qu'il est là et qu'il nous écoute, et que l'amour et mon affection pour lui sera à jamais présente. Voilà. On disait quoi? Excusez-moi, je parlais de Jean-Marie.
Vous me parliez par rapport à... Donc, je vous demandais voilà, que vous dénoncez depuis longtemps et que vous retrouvez cette grandeur à la française.
Ah voilà. Ce que je dis, voilà, Donald Trump, excusez-moi, parce que j'ai 50 millions de personnes qui vivent dans ma tête, n'est-ce pas? Et je pense qu'en l'espace de 24 heures, il faudrait prendre des décisions très importantes. Alors moi, je suis très ami avec Éric Zemmour. J'adore Éric, j'adore Sarah.
Vous les avez croisés dans ce cas-là?
Mais bien sûr. Ouais. Et bah oui, c'est des amis, ils viennent chez moi.
Non, mais je parle à Washington. Vous avez
oui, on était ensemble. Mmh. Mais eux, ils n'étaient pas invités par le truc.
Tout à fait, c'est pas la même chose.
Invités par d'autres gens. Mais voilà. Et donc, Eric a dit ce qu'il ferait, comme De Villiers a dit ce qu'il ferait au bout de 24 heures. Bah, il y a des choses qui doivent se faire. Et si les Français sont un peu encore conscients, il va falloir que sous 40 ou 24 ou 48 heures, eh bien, on décide un référendum pour quitter l'Europe. D'ailleurs, on l'a voté contre ce référendum, et M. Sarkozy, qui est quand même maintenant pas fait, a fait passer ce référendum alors qu'on l'avait voté contre. Non, mais on est quand même entouré par une bande de sacrés gens foutres, excusez-moi. Et après, les mecs se plaignent. Bon, vous savez, des vrais droitards, ça s'appelle pas Nicolas Sarkozy. Hein. À l'entendre, quand il avait été élu, rappelez-vous, la gauche avait dit que ça y est, c'était un néo-nazi, un mec d'extrême droite. Le mec, il se marie au bout de quelques semaines avec Carla Bruni, qui est une gauche caviar. Il met au gouvernement des types qui sont corrompus de la gauche mitterrandienne. Et la preuve, aujourd'hui, il passe des semaines en prison, etc. Enfin, ouais. C'est le président de la République, on n'a jamais entendu autant de bracelets électroniques, de bracelets ceci, de bracelets cela. Le mec, il n'est pas non plus très clair, parce qu'à 72 ans, se faire 4,5 millions d'euros de revenus par an en faisant des conférences, ça sent quand même assez mauvais quand même. Faut pas prendre les gens pour des cons. Hein. Ça s'appelle la rétrocommission, ça s'appelle plein de choses comme ça. Hein. Ça s'appelle de la corruption sur personnage de l'État. Louis XIV aurait fait enfermer, comme Fouquet, à la Bastille. Bon, donc je vous dis, si demain on doit sauver la France, eh bien, il faut un homme fort ou une femme forte. Moi, j'avoue que si mon cœur balance énormément pour Marine Le Pen, c'est une femme d'expérience, c'est une femme dont le père s'appelle Jean-Marie Le Pen. Elle s'est beaucoup rapprochée des idées de son père, en tout cas ces derniers temps. Et je pense qu'il faut des gens de droite, mais d'une droite intelligente, mais il va falloir prendre des décisions qui seront dures. Et vous croyez-moi, les gauchistes, les Mélenchons et les antifas, etc., vont être là et ça peut être dangereux. Moi, j'ai peur que le soir de l'élection, si c'est Marine ou Jordan Bardella qui sont élus, selon, voilà, eh bien, il y ait le lendemain des victimes, des morts. Mais c'est peut-être pour ça qu'il va falloir. Il y a un moment, il faut que ça explose. De toute façon, dans l'histoire de France, il y a toujours eu des révolutions. Le problème de ce pays de merde, de cette Europe de merde, c'est qu'avoir voulu faire des non-guerres et des non-droits, eh bien, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. Donc, avant, on appelait la chair à canon. Les mecs de gauche, les cocos, les extrémistes, ils partaient à la guerre, c'était la chair à canon. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre. Donc, c'est des traqués mentaux. Ben, ils sont là, ils vous parlent, ils insultent. Donc, je pense, oui, il va falloir un tournant à droite. Il faudrait quasiment même une, entre guillemets, une pseudo-dictature. C'est ça que j'exagère un peu. Mais il faut un mec qui ait les couilles, quoi. Comme Trump. Ou une femme.
Alors, Pierre-Jean, parce que ça passe très vite, hein, comme vous voulez dire.
Oui, oui. Oh, vous inquiétez pas.
Vous avez évoqué, on aimerait bien un peu savoir, là, plusieurs projets enthousiasmants pour 2026. Hein, vous aviez parlé d'un one-man show. Un retour à la télévision et cette chanson qui a déjà fait parler d'elle. Qu'est-ce qui vous excite le plus dans cette nouvelle aventure et comment comptez-vous continuer à faire rire les Français tout en les faisant, j'insiste, réfléchir sur notre histoire et notre identité ?
Bah écoutez...
Où ça en est d'ailleurs, le One Man Show
Le One Man Show avance très très bien. J'ai plusieurs personnes qui m'aident à l'écrire. Là, on est en phase terminale, si je puis dire, d'écriture. Ouais. On sait exactement le temps, le timing, le propos. Là, on est en train de voir pour une boîte de production, pour un tourneur, etc. Donc ça avance bien, je suis très content. Ça, c'est bien. La télévision, bah écoutez... Je pense que la télévision arrivera avec un retour de la droite au pouvoir. Tant que ces gens qui sont actuellement au pouvoir sont là, ils ne m'ont pas fait demander de revenir. Comme ils n'ont pas demandé à revenir à Patrick Sébastien, comme ils n'ont pas demandé à revenir à Jacques Cardoz, comme ils n'ont pas demandé à revenir à Nagui, contre Nagui. Ils n'ont pas demandé, je pensais à Nagui parce que c'était un monde terrifiant. Le mec, il est d'une arrogance... comme Xavier Niel, mais cette gauche est absolument à vomir. C'est terrifiant. Alors que toutes les gens qui étaient aimés de la télévision ont été virés comme des merdes.
Vous parlez de Le Perse, je suppose, par exemple.
Julien Le Perse, qui est un copain que j'adore, il a été. Oui, là, il faudra absolument le faire revenir. Nelson Montfort, qui est un ami.
C'est un peu compliqué avec Sébastien aussi.
Mais Patrick, c'est pareil. Donc, moi, ce que j'ai dit d'ailleurs à un certain nombre de personnalités de droite, etc., j'ai dit demain, vous gagnez les élections, il va falloir que ça vous alliez très vite et que vous remettiez ces gens-là. Parce qu'il faut que la population se dise à nouveau, ça y est, on est revenu en France. On n'est pas chez Radio Bobo. Moi, excusez-moi, je m'en bats les couilles de Gaza. Mmh. Je suis parisien, je suis français et je suis européen. Mais franchement, il y a un moment, ça va. Il y a un moment, ça va. Je serai dans quelques jours à une manifestation pro-iranienne, pro-Pahlavi, à Paris. Mais il faut, ces gens-là nous bouffent, nous détruisent depuis 48 ans, 47 ans. Tous ces proxys ont tué des dizaines de soldats français, ont créé des attentats, ont financé des centaines de milliers de morts, des millions de morts avec la guerre Iran-Irak. Ce sont des gens dangereux. Et quand je vois tous ces gauchistes, ou même certains membres du gouvernement actuel qui sont là, mais réveillez-vous, bordel de merde! Non, mais c'est bon, c'est comme si on disait qu'Hitler était... Mais si on avait eu des gens un peu plus comme moi à l'époque, il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé. Le problème d'aujourd'hui, des gens des médias qui ferment leur gueule. Alors maintenant, on commence à en voir, comme Cyril, Hanouna, qui fréquentent Bardella, machin. Mais il y a encore 3 ou 4 ans, ils se foutaient de leur gueule. Qui est-ce qui a reçu Jordan Bardella et la famille Le Pen? C'est moi et Marine Le Pen chez moi, il y a 5 ou il y a 6 ans, dans des dîners. Qui est-ce qui était l'ami? Moi, j'ai bouillé ma chemise. Donc, c'est trop facile. Ça me rappelle les résistants de la dernière heure. Ah, c'est trop facile, hein, c'est bon, ça. La dernière fois, j'ai gueulé parce que il y avait Bardella avec Marine qui était dans un dîner avec Jordan Deluxe et comment il s'appelle? Et Cyril Hanouna. Non, mais on se fout de la gueule du monde. Hanouna était complètement avec le chef de l'État, avec Emmanuel Macron. Quant à Jordan, quand j'ai eu mes histoires, c'est le premier qui m'a trahi en me disant qu'il pouvait pas me fréquenter parce que je mangeais avec Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen. Mais le problème, c'est qu'il était sur les vidéos. Non, mais faut prendre pas pour des cons. Non, mais tout ça, c'est des suceurs et des suceuses. Voilà.
Alors, malheureusement, il nous reste une minute, Pierre-Jean, quel est votre plus grand espoir pour la France? Ça passe vite, hein. Et dans les mois et les années à venir, et comment Napoléon vous inspire-t-il encore chaque jour dans ce combat?
Napoléon m'inspire quotidiennement parce que impossible n'est pas français. Demain, il fera jour. Napoléon est un homme de conviction, un homme de terrain. Et aujourd'hui, je suis optimiste. J'espère que les Français s'aperçoivent de cette vague de déferlement qui est en train d'arriver sur l'Europe et sur la France. Hein, On nous emmerde avec Israël, on nous emmerde avec
En tout cas, ceux qui vous suivent doivent l'être.
Oui, mais moi, je veux dire une chose, il faut se battre, il faut être courageux. Et l'histoire de France a toujours fait que la France reste une grande nation. Là, nous sommes au bord du précipice, il va vraiment falloir se mobiliser. Moi, en tout cas, je me mobilise pour Jordan ou pour Marine. Et il faut absolument que les Français aillent voter et soient, n'écoutent pas les sirènes des centristes et de BlackRock, parce que ce sont des gens dangereux. Aujourd'hui, c'est encore possible. Demain, il sera trop tard.
Eh bien, écoutez, cher Pierre-Jean, c'est passé très vite. Hein, on arrive malheureusement au terme de cet
entretien. Ce n'est qu'un au revoir.
J'espère bien, qui a filé à toute vitesse. En tout cas, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Radio Courtoisie.
Merci, mon ami. Et merci à Radio Courtoisie, qui est vraiment une très jolie radio avec des gens charmants. Et j'espère que vous arriverez à vous développer encore plus vite, parce que vous êtes une vraie belle radio.
Eh bien, merci beaucoup. Et puis, rappelons que votre passion pour Napoléon, votre attachement viscéral à notre patrimoine et à l'histoire de France, votre énergie communicative et ce franc-parler si rare aujourd'hui ont été une vraie bouffée. Je pense que d'oxygène pour nos auditeurs.
Merci. Donc, Jean-Étienne.
Malgré les tempêtes traversées, la perte du palais Vivienne, les épreuves
mais
personnelles.
Mais tout ça, c'est pas très grave. Vous savez, plaie d'argent n'est pas mortel. Et on m'a fait ça uniquement parce que je suis de droite et que j'ouvre ma gueule. Donc ne vous inquiétez pas, je me vengerai. La vengeance est un plat qui se mange froid.
C'est bien pour ça que je n'ai pas trop insisté à ce sujet. En tout cas, vous continuez à avancer avec cette détermination impériale en créant, en chantant avec votre tube. Je rappelle, rendez-vous les bijoux.
Rendez-nous les bijoux. Et je veux dire, rendez-nous les bijoux. Oui. Et bordel de merde, j'espère qu'on va les retrouver.
Et en préparant, donc on a compris, un one-man show pour 2026 et en portant haut les couleurs de ce que vous avez appelé le monde d'avant. Donc votre capacité à transformer les difficultés en création et en combat pour la grandeur de la France force l'admiration. Vous nous avez rappelé que l'héritage de l'empereur reste une source d'inspiration puissante, volonté, organisation, fierté et rayonnement. Donc, chers auditeurs, je vous invite à suivre Pierre-Jean Chalençon dans ses nouvelles aventures, à réécouter sa chanson et ses chansons d'ailleurs sur YouTube.
Oui, et sur les réseaux qui s'inscrit. Moi, je suis sur Instagram, YouTube, sur X et tout, vous me trouvez partout. Hein. Je suis partout, moi.
Et à cultiver, vous aussi, chers auditeurs, cette flamme pour notre histoire. Donc, merci encore, Pierre-Jean.
Merci, Jean-Étienne. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices. Vive l'empereur et vive la France!
Et ce fut un vrai plaisir, un honneur de vous recevoir. Vive l'empereur, vive la France, et à très bientôt sur Radio Courtoisie.